bonsoir. C'est un vrai Big Bang qui est tombé sur la tête de la province de Kinshasa lundi. Dans la nuit, une énorme pluie jusque mardi matin a causé au moins 40 morts provisoires et plusieurs dégâts matériels. Et dans la voirie de la capitale, coupant notamment l'avenue de l'université en deux, le président Félix Tshisekedi a immédiatement demandé des réparations urgentes. Toujours dans le chapitre de nouvelles pas rassurantes, confusion et éclaircies se sont alternées cette semaine au Nord Kivu. Mercredi, les responsables de la MONUSCO et ceux de l'armée de la RDC se réjouissaient encore de l'annonce de la reprise des opérations conjointes entre les deux parties, alors que sur le terrain, au Nord Kivu, on mentionnait de nouvelles tueries, au moins deux parmi les personnes qui manifestaient à Butembo contre les tueries à Beni, et sur place à Beni, au moins 15 tués dans des nouvelles attaques attribuées aux ADF. Et pour évoquer toutes ces actualités, nous serons avec John Kanyunyu, journaliste indépendant et reporter de guerre, également correspondant de la Voix de l'Allemagne Deutsche Welle à Beni au Nord Kivu. John Kanyunyu, bonsoir.
Bonsoir Donan.
Mais aussi J.R. Mokolo, bonsoir.
Bonsoir Donan Madimba.
Journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa. Et enfin, Freddy Chiyoyo, rédacteur au site d'information electionnet.com et correspondant de la télévision Africa News. Freddy Chiyoyo, bonsoir.
Bonsoir, cher Jonah Majimba.
À tous, bienvenue dans votre émission. Et pour alimenter nos débats de tout à l'heure, voici la revue de presse.
Bonsoir, commençons cette revue de presse par la situation sécuritaire dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Face aux tueries et atrocités principalement perpétrées par les groupes armés des ADF dans la partie est du pays, le président de la République, Félix Tshisekedi, a décidé d'accélérer et renforcer le processus d'assaut contre tous les rebelles qui endeuillent tous les jours la population congolaise, rapporte la prospérité. Face aux attaques des ADF dans la nuit du 24 au 25 novembre, indique le journal, le chef de l'État a d'une part levé l'option pour l'installation rapide d'un quartier général des FRDC dans ce territoire et d'autre part ordonné la mise en œuvre des opérations conjointes entre l'armée nationale et la MONUSCO afin d'assurer la paix et la sécurité à la population civile de Beni. Ce conseil de sécurité, rapporte l'agence congolaise de presse, avait pour objectif d'arrêter de nouvelles stratégies pour faire revenir le calme dans ce coin de la République. Le lundi 25 novembre, rappelle case-info.ca, la situation était tendue à Beni où plusieurs habitants manifestaient contre la résurgence de l'insécurité dans la région. Les manifestants avaient incendié la mairie de Beni et la base militaire de la MONUSCO, la force onusienne qu'ils accusent d'inefficacité, ajoute le site web. Par ailleurs, fait remarquer congoprofond.net, les jeunes de Beni exigent l'instauration de la vraie sécurité et non celle verbale clamée par les décideurs. Selon actualité.cd, 24 civils ont été interpellés après s'être attaqués aux installations de la MONUSCO situées à Boïkéné, à Beni. Certains parmi eux étaient blessés et ont été soignés à l'hôpital installé dans le camp des Malawites qui se trouve à proximité, ajoute le site web. Le comité provincial de sécurité du Nord Kivu a décrété un couvre-feu dans la ville de Beni suite aux attaques sanglantes de ces derniers jours. Les entités concernées sont Beniville, Mbau, Mavivi, Oicha, Kokola, Erengeti et Maimoya, conclut le tabloïd. Pluies diluviennes dans la ville-province de Kinshasa. De nombreux résidents de la ville de Kinshasa se sont retrouvés aux premières heures de la matinée du mardi 26 novembre devant le spectacle apocalyptique des maisons emportées par des eaux ou des érosions, des corps sans vie flottant sur des eaux ou enfouis dans des décombres des maisons, des routes coupées ou inondées, des personnes sans abri courant dans tous les sens, décrit le phare. Le bilan provisoire livré par le bourgmestre des quelques communes sinistrées de la ville fait état d'une cinquantaine de morts. Les communes les plus touchées sont Mongafoul avec 17 morts et Lemba avec une quinzaine, écrit le journal. Le gouvernement provincial de Kinshasa s'engage à assister les blessés et les familles qui ont été éprouvées suite à ces pluies diluviennes, renseigne Forum des As. Le journal reprend le propos du vice-gouverneur de la ville, Néron Bongo, à l'issue de la tournée qu'il a effectuée dans les principaux sites où l'averse a provoqué la mort de 41 personnes et d'importants dégâts matériels, ajoute le quotidien. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ordonné le même mardi les travaux d'urgence pour la réhabilitation de l'avenue de l'université coupée par les eaux des pluies qui s'est abattue à Kinshasa, indique l'agence congolaise de presse.
Merci Kelly Nkoute. La mise en bouche d'avant débat se poursuit. John Kanyunyu, journaliste indépendant et reporter de guerre, également correspondant de La Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, à Beni au Nord Kivu. Quelle autre actualité en dehors de nos deux sujets de ce soir aimeriez-vous partager à ce stade?
Oui, à Beni, c'est la situation qui est toujours la même depuis près d'une semaine, parce que il y a les activités qui sont restées toujours paralysées ici, suite aux différentes manifestations dont vous avez fait allusion dans l'introduction. On est là et il y a les jeunes de certains quartiers qui se sont organisés dans le cadre de faire des patrouilles nocturnes, et ils s'organisent autour des feux d'un certain carrefour. Ils disent avoir fait cela pour pallier l'éventualité des égorgeurs, parce que il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, les ADF ont tué dans l'un des quartiers de Beni, et pour la première fois, c'est à l'ouest de la ville, parce qu'ils opèrent souvent dans la partie nord-est, et tout le monde est aux aguets. Certaines familles ont été obligées de déménager et d'aller dans les endroits où ils pensent être sécurisés. Et à part ça, il y a les massacres qui sont survenus encore avant-hier à Ouicha, où 19 personnes ont été égorgées au niveau des Maleki, c'est à 9 kilomètres à l'ouest de la commune rurale de Ouicha, le chef-lieu du territoire de Beni. Et c'est une ambiance de désolation qui a lieu ici à Beni, ville, tout comme à Beni territoire. Et il y a aussi le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbalamout Sincé, qui est arrivé à Beni le jeudi passé, donc hier jeudi, et là ça suit une forte délégation des généraux venus de Kinshasa. Ils viennent respecter la situation sur le terrain. Nous attendons les retombées de cette visite ou de sa visite ici sur place. Et voilà un peu à bref ce qui prévaut dans cette partie du pays.
Merci John Kanyunyu. Vous évoquez beaucoup de faits d'insécurité comme actualité dans cette partie du pays. C'est d'ailleurs la thématique de notre second thème de ce soir. Vous pourriez notamment donner plus de détails à ce sujet tout à l'heure. J.R. Mokolo, journaliste et producteur des magazines d'information à CCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa, à ce stade, votre commentaire libre.
Oui, mon commentaire libre, dans un premier temps, je voudrais en tout cas avoir une pensée pieuse pour notre confrère Mathieu Kamango, ancien de télé 50, et avant sa mort, il était responsable de la série de communication au ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, piloté par Billy Kambale. Ses confrères, je lui ai le côtoyé plus d'une fois. Une fois, on est parti avec lui et puis Jean-Marie Kassamba dans un voyage de presse pour inspecter les travaux de réhabilitation de la route Kinshasa-Kikwit. Et plus d'une fois aussi, il m'a reçu dans son émission. Ça fait débat il y a plusieurs années. Et récemment aussi, il était à Canal Congo Télévision pour participer à l'émission Kiosque. Et voilà vraiment un confrère qui part comme ça à la fleur de l'âge, au moment où on n'a même pas appris qu'il était malade, subitement, comme ça il est parti. Deuxièmement, je voudrais aussi penser à un vivant, c'est féliciter le président, le chairman Moïse Katumbi, pour les 80 ans d'existence de Tout-Puissant Mazembe. Vous vous rendez compte que c'est cette équipe-là, en tout cas, qui fait la fierté de la RDC, qui a glané plus de titres sur le plan continental et qui a une grande visibilité sur le plan international, contrairement à nos clubs qui noient ici, par exemple, le DCMP, le club qui est devenu pratiquement comme une pépinière où on recrute aujourd'hui, demain, on revend les joueurs sans permettre à l'équipe, en tout cas, de pouvoir aller de l'avant.
Merci, J.R. Mokolo. Freddy Chioyo, rédacteur au site d'information electionnet.com et correspondant de la télévision Africa News, votre coup de cœur informationnel.
Merci Donna, je dois m'envoyer à celle de notre confrère Mokolo pour aussi présenter mes condoléances à la famille de notre confrère Mathieu Kamango que j'ai rencontré avant-hier ici en ville dans le de son cabinet au ministère de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Je l'ai croisé en bonne santé en tout cas. Il affichait une mine qui ne pouvait pas donner l'image que quelqu'un qui pouvait rendre l'âme 48 heures après. Ça fait très mal. C'est un confrère qui a beaucoup excellé, qui a fait montre de son talent à la télévision. Mais également, deuxième point, je suis un peu sidéré du comportement de nos frères du UFCC qui semblent disposés à multiplier des crises aussi bien réelles qu'artificielles pour empêcher l'action du chef de l'État en exercice pour qu'il puisse un peu échouer aux besoins et avoir comme élément à brandir en 2023 pour rebondir. Je pense que lorsqu'on a fait 18 ans au pouvoir, après un transfert pacifique de pouvoir, il faut quand même observer un peu, se mettre un peu à l'abri, faire un peu l'examen de conscience. Où est-ce que ça a échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça intériorise un peu, ça ne mettre pas en question. Pourquoi est-ce que les Congolais nous ont vomi aux élections présidentielles? Pourquoi ça n'a pas marché? Et c'est un peu de faire une introspection en soi et puis pour dénicher un peu là où ça va marcher. Mais on constate que nos amis font des sorties parfois qui énervent la population, qui a encore des plaies pas encore cicatrisées, avec du langage un peu un peu irrévérencieux contre le président qui est là en place, comme quoi c'est la stratégie, Chadron n'a jamais échoué. Avant, on me semblait minimiser avec la suite de M. Dunia Kilanga, qui par ailleurs, on soutenait son niveau intellectuel. On a dit, bon, c'est pas grave, on ne comprend rien. Et maintenant, on voit un professeur d'université, un diplomate, un ambassadeur, sortir avec un langage approximatif et puis après faire un rétropédalage. Je pense que ça énerve un peu la conscience collective, hein, puisque tout le monde sait que dans ce pays, les Congolais ont vomi le PPRD, les Congolais avaient vomi Kabila. Alors c'est le fait que Kabila ait accepté de transférer pacifiquement ses pouvoirs que aujourd'hui les Congolais ont un regard un peu pardonnant vis-à-vis de Kabila. Alors vouloir remuer le couteau de la plaie, je pense que le moment n'est pas indiqué, que nos amis du PPRD, FCC, qui sont maintenant en retraite, c'est leur droit de réfléchir. Lorsque on a géré 18, il faut des fois réfléchir pourquoi est-ce qu'on a été vomi. Mais commencer à jeter des colibets, à faire des pics pour énerver le Congolais, je pense qu'ils ne sont pas les personnes les mieux indiquées pour se livrer à pareil exercice.
Merci Freddy Thuriot. Ceci nous conduit à notre premier thème de ce soir. Presque un véritable Big Bang est tombé sur la tête de la province de Kinshasa lundi. Dans la nuit, hein, une énorme pluie jusque mardi matin a causé au moins 40 morts provisoires et plusieurs dégâts matériels et dans la voirie de la capitale, coupant notamment l'avenue de l'université en deux. Le président Félix Tshisekedi a immédiatement demandé des réparations urgentes et sur le terrain, les choses bougent déjà un peu. Témoignage de Paul Matendo.
Selon le génie militaire, il s'agit dans un premier temps de faire le mesurage du site afin d'élaborer le plan d'exécution des travaux. Les travaux qui doivent démarrer, selon la même source, dans les jours qui viennent, conformément à la demande du chef de l'État. Pendant ce temps, les sinistrés de l'Ivoulou qui ont passé leur première nuit chez des voisins appellent à une assistance humanitaire.
Notre maison s'est écroulée à 5 heures. Pour l'instant, nous manquons des résidences. Le voisin nous a assistés hier, mais demain, nous ne savons quoi faire.
Sur le site situé derrière le collège Limosantou, toujours à Livoulou, les habitants de ces quartiers accusent la coordination de l'opération Kinbopeto qui a choisi cet endroit pour y déverser les immondices, comme le dit l'un d'eux.
Nous responsabilisons les gens de l'hôtel de ville. Ce site a été choisi par l'hôtel de ville pour pouvoir déverser les déchets dans le cadre de l'opération Bopeto. Comme ce n'était pas prévu pour que les gros véhicules puissent passer par là, on leur a demandé de pouvoir d'abord sécuriser cette entrée. En y jetant des moellons, ils ont jeté des déchets par-ci par-là et la pluie nous a surpris. Qui viennent au moins nous aider pour voir comment on peut bloquer l'entrée de la parcelle.
Une source proche de l'hôtel de ville qui a requis l'anonymat affirme que l'opération Kinbopeto fait face à des problèmes logistiques. Entre-temps, dès que le ciel s'assombrit, la panique gagne les habitants de ces quartiers.
John Kanyunyu, c'est vrai que vous êtes un peu loin de Kinshasa, la capitale de la RDC, les pieds dans l'eau, une véritable hécatombe de personnes décédées, c'est à ce que d'aucuns qualifient de déluge. Quel commentaire cela vous inspire-t-il?
Oui, Donald, je suis à plus de 2000 kilomètres vol d'oiseau de Kinshasa, mais je fréquente souvent Kinshasa et je me dis... c'est que le chef de l'État a pris comme décision. C'est bon. Mais moi, je me dis, il faut pas avoir les larmes des crocodiles. Hein, on devait prévenir tous ces dégâts-là. On devait prévenir toute cette catastrophe en urbanisant la ville de Kinshasa. Le problème avec notre pays, c'est que il y a des constructions anarchiques. Et quand les gens vous construisent comme ça, il y a l'État qui est là, il y a les autorisations, il y a d'autorisations de bâtir qui sont livrées, et sans tenir compte même des terrains sur lesquels on va construire. Moi, je pense que au lieu de chaque fois faire cela, il faudrait que qu'il convoque le ministre de l'urbanisme, qu'il remette un peu de l'ordre dans ces domaines-là, parce que avant-hier c'était à Kinshasa et on ne sait pas demain ça sera où. Hein, à Bukavu, c'est la même chose. Et il y a d'autres villes qui font face à de telles catastrophes. Moi, je pense que c'est bien d'ordonner qu'on répare, c'est bien, mais il faut avoir une politique de prévention. Et c'est un peu ça mon commentaire. Il faudrait pas qu'on soit en train d'assister à des catastrophes qui devaient être évitées dans l'avenir. Le chef de l'État doit prendre ses responsabilités à main et puis se rassurer et que toutes ces orientations sont observées par les responsables des domaines différents, surtout dans ces domaines-là.
Donc, selon vous, c'est la faute de l'État de n'avoir pas suffisamment anticipé sur comment gérer ce genre de situation, ou c'est, comme disent certains, aussi la faute à la population qui parfois construit de manière sauvage et pas forcément à des endroits appropriés?
Oui, c'est de la faute de l'État, parce que les agents de l'État qui délivrent des autorisations de bâtir, ils le font dans leur bureau climatisé sans envoyer les gens sur le terrain. Et des fois, ils autorisent des constructions sans savoir sur quel terrain va être érigé telle bâtisse ou telle autre. Voilà, la faute, c'est d'abord, la faute revient à l'État et la faute aussi revient à la population qui doit prendre ses responsabilités.
Alors, J.R. Mokolo, John Kanyunyu donne, si pas toute la faute, mais la grosse faute, la grosse part de faute à l'État. Mais est-ce que les sinistres de ce genre, il y en a pas aussi tous les jours ici, dans les pays industrialisés, qui ont beaucoup plus de moyens, un dégât naturel, on peut pas toujours le prévenir, non?
Oui, bon, de prime abord, il faut reconnaître que notre confrère John a raison quand il épingle la responsabilité de l'État. Nous baignons dans l'incurie dans la gouvernance de notre pays depuis plusieurs années. Est-ce que vous dites que oui, nous reconnaissons que les catastrophes naturelles sont inévitables, ça peut survenir partout, mais chez nous ici, ça survient, mais le pays n'est pas préparé à y faire face. C'est ça le grand problème. Vous avez vous-même, par exemple, sur terrain, comment ceux qui devaient secourir les sinistrés étaient désarmés. Ils n'étaient pas suffisamment équipés pour faire face à la situation. Ailleurs, par exemple, quand vous retrouvez devant des agglomérations inondées suite aux pluies diluviennes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des canaux rapides, il y a des hélicoptères qui peuvent évacuer les gens pour les sauver. Mais nous ici, qu'est-ce que nous avons? Donc ça veut dire que le Congo, près de 60 ans pour l'indépendance, ce pays-ci n'est pas gouverné. Ce pays-ci n'est pas préparé à faire face à ses responsabilités, à faire face à toutes les situations qui peuvent en tout cas arriver. Je me rappelle que ce qui s'est passé cette semaine, c'est pas la première fois. Je me rappelle qu'il y a l'année passée, ou plus d'une année, nous avons assisté pratiquement à la même catastrophe. Les responsables du gouvernement sont allés sur terrain pour constater les dégâts. Le premier ministre de l'époque, je crois, y était parti aussi. On a pris des résolutions, on a promis qu'on devait prendre des précautions, mais une année après, rien n'a été fait. On est revenu pratiquement à la même situation.
Selon vous, c'est un manque de volonté politique, c'est une absence totale d'une politique d'urbanisation, ou plutôt la faute de la population.
C'est en fait l'absence de l'État. Quand l'État n'existe pas, la population, en fait, les citoyens, ils peuvent se conduire comme ils veulent. Mmh. C'est comme un parent, par exemple. Si tu n'es pas discipliné, si tu ne sors pas la discipline dans sa famille, les enfants peuvent, une fille peut aller et rentrer à 1h du matin, frapper à la porte, l'autre devient Kuluna. Donc, je crois que le premier responsable, c'est l'État congolais qui ne prend pas ses responsabilités. Parce que vous vous rendez compte, par exemple, sur le chemin de fer Kinshasa-Matadi, au niveau de l'IMT, ce site-là, de Sokopao. Mm. Mais les gens y habitent de part et d'autre des rails. Imaginez-vous que si nous avions un trafic intense et qu'il y avait des déraillements, Donc on pouvait aussi assister à des gens en situation. Vous vous rendez compte à Goma, par exemple, l'accident qui est survenu là, au quartier Birere. C'est parce que ce quartier est contigu à l'aéroport. Donc ça dit c'est un état démissionnaire. C'est en fait, le Congo, c'est normal un espace géographique. Ce n'est pas un pays organisé où tout est vraiment en ordre, où on respecte les normes.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère, un peu,
non, pas
un peu agacé
moi,
de voir ce genre de sinistre se répéter régulièrement?
Je pense que Donald Madimba, face aux dérives que nous connaissons, face à la crise des mentalités, à la crise comportementale pratiquement, il faut être sévère. Il ne faut pas être complaisant. Il faut mettre les doigts là où ça fait mal. Parce que vous vous rendez compte, aujourd'hui, on déplore tout ce qui a été déploré. On peut saluer la présence du chef de l'État sur le terrain. Mais demain, on va retrouver peut-être des personnes qu'on a délogées sur des sites à risque. Un mois après, deux mois après, ils retournent et aux yeux aussi des autorités compétentes. C'est ça le grand problème que nous avons dans ce pays.
Merci J.R. Mokolo, Freddy Chiyoyo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation dans la capitale et pour éviter l'image d'une capitale qui n'est pas administrée?
Il faut d'abord soulever d'abord un fait politique. D'abord, c'est le fait que le premier citoyen des Congolais ait fait des placements sur place pour constater les dégâts. En tout cas, on a connu un président pendant 18 ans ici.
Est-ce que par rapport à une cinquantaine de personnes qui ont perdu la vie, est-ce que c'est pas un peu trop protocolaire d'insister sur ça?
Oui, c'est protocolaire, oui, mais au moins c'est la symbolique. Le fait qu'un père de famille descend pour conseiller les dégâts et puis descend à ses ravels avec ses pauvres populations, c'est quand même un bon signe quand même. Hein, c'est la proximité avec sa population. Mais également, la faute, elle est aussi partagée, mon cher ami Donald Madimba. C'est vrai, quand on va au marché, on étale les chinchards sur les étalages. Est-ce que tu vas prendre un Thompson et chercher qui est déjà pourri, ou bien tu vas choisir ce qui est bon? C'est vrai, c'est partagé. Parce que quand on vous dit que ce site n'est pas un site habitable, on peut pas le tirer ici. Mais vous avez votre argent, vous acceptez quand même d'aller acheter. C'est des risques que vous prenez. Puisque, en montant vers le campus universitaire, c'est un mont. Là, on a érigé le campus. Il y a des conditions pour ériger une construction sur une montagne. Alors, est-ce que tous ceux-là qui ont construit dans les alentours du campus universitaire ont respecté les normes urbanistiques ou les normes de construction? Quelque part aussi, l'État a sa faute, c'est vrai, mais nous, Congolais aussi, qui allons acheter? Pourquoi ne pas l'acheter après l'aéroport? Encore que, il ne faut pas aussi construire pour l'aéroport. Il faut aller un peu loin de la première, au moins 1000 mètres, comme le cas de Biré qu'a évoqué M. Mokolo. Quand vous êtes là, quand vous êtes à Goma, mais quand on atterrit, on voit les habitations aux alentours de l'aéroport, c'est dangereux. C'est comme le cas de Tsipka ici. Il y a eu mort d'homme en 93. Mais jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été pris comme mesure pour éviter que cela puisse plus se reproduire? Puisque jusqu'aujourd'hui, à côté, à Complace, on fabrique des matelas. En face, il y a Simba Zigida. Donc, tout peut encore arriver. De l'autre côté, il y a le croisement poids lourd et le centre de l'eau. Il y a les étudiants à côté. Qu'est-ce qui est déjà fait pour qu'on puisse éviter à tout ce qui peut arriver à deux mois après? Parce que nous avons le sacré niveau dans ce pays.
Mais justement, Freddy Tio, c'est vrai que Félix Tshisekedi va bientôt totaliser sa première année en fonction et que
tout non, ce c'est que en février, dans janvier 2024.
Oui, oui, mais que tout ce que vous êtes en train de mentionner est des pouvoirs passés, mais puisqu'il est déjà là depuis un certain nombre de mois, aucune mesure urgente justement n'a été prise, alors que il y a des experts climatiques et environnementalistes qui avaient annoncé justement des jours très difficiles, sur le plan climatique.
Alors ça, c'est une question collective à poser au gouvernement, n'est-ce pas? Nous avons un gouvernement qui a été mis en place depuis presque deux mois maintenant. Je pense qu'il faut donner le temps aussi à Pius Mabilou pour mettre en pral sa politique urbanistique pour doter un peu Kinshasa ou le Congo des normes qu'il faut en termes de construction de parcelles. Mais je pense que j'estime de ma part, je ne voulais pas dédonner le gouvernement, mais nous Congolais aussi, nous acheteurs de maisons, nous qui aspirons à devenir des bailleurs de main, nous devons savoir où est-ce que nous devons construire, où est-ce que nous devons lotir. Il ne faut pas le tir dans un coin. Ce que j'ai vu au campus, cette maison qui s'embrale comme un sac de foufou. Donc vous sentez qu'en dessous de la fondation, il n'y a que du sable, mon cher ami. Donc c'est que donc il n'y avait pas un bon soutien.
Alors ça, c'est du côté de la population, mais du côté des dirigeants,
qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent se sentir interpellés. les conservateurs, ceux qui sont soumis au niveau de ceux qui livrent le terrain, est-ce qu'ils sont réellement mandatés de faire ce qu'ils font? Est-ce qu'ils suivent les normes en liquidant certains espaces terrestres à nos compatriotes? Donc, il est partagé, il faut de les partager, que le gouvernement puisse jouer sa partition et que tout le monde puisse faire ce qu'il faut selon les règles de l'art.
Alors, John Kanyunyu, je peux pas prétendre ici avoir la mémoire de tous les incidents d'ordre climatique qui sont peut-être arrivés au Nord Kivu. On a l'impression qu'il y en a moins qu'à Kinshasa. Selon vous, faire un peu comme au Nord Kivu ou de manière générale éviter ce genre de catastrophe, surtout dans la capitale?
Oui, moi je pense que je ne vais pas me répéter. C'est question de qu'il y ait une politique de ça, que le gouvernement congolais ait une politique de prévention. Et quand une catastrophe naturelle arrive, et qu'on soit en mesure d'y faire face. Parce que, comme le confrère l'a dit, il y a d'autres pays, quand ça arrive comme ça, il y a l'État qu'on voit à l'œuvre, mais chez nous, c'est toujours en retard. Je peux revenir sur le crash d'il y a quelques jours à Goma. Et on a vu les gens mourir comme ça. Ils étaient entrés, selon certains témoignages, de cogner sur les fenêtres. Et il n'y avait pas moyen de les sauver. Donc si on avait des véhicules anti-incendie, ça pouvait, il y a des vies qui pouvaient être sauvées. C'est la même chose que Kinshasa. Donc, la responsabilité revient encore une fois à l'État. C'est l'État qui doit tout faire pour prévenir tout ça. Bien sûr, un accident, on peut pas le prévenir, mais il y a toujours moyen ou il y a toujours lieu
de bien gérer,
faire face à cet accident.
Merci John Kanyunyu. J.R. Mokolo, vous aviez un élément à ajouter?
Oui, bien sûr que le président est parti là-bas pour consoler, c'est à féliciter. Mais le même président, je me rappelle, à l'Est, il est allé par exemple consoler les victimes d'un accident de navigation. Il avait brandi même les gilets de sauvetage. Et que désormais, pour voyager, chacun devait en disposer. Mais qu'est-ce que nous voyons sur terrain? Plusieurs mois après que le président ait donné ce coup là-haut, cette instruction-là, est-ce que nos voyageurs ici sont munis de gilets de sauvetage? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des naufrages à répétition dû au fait qu'il y a une surcharge, les normes de navigation ne sont pas respectées? Donc, je crois que tout revient à l'État.
Oui.
Pour que quelqu'un construise, si nous avons un État qui gouverne, on ne peut pas permettre à ce que les gens construisent sur les sites à risque, comme Freddy l'a dit, par exemple, au niveau de l'Unikin. On ne peut pas accepter. Mais un État irresponsable voit ses propres enfants, ses propres citoyens construire dans des endroits à risque, prendre des risques. Le fait, par exemple, qu'on transforme la rivière Kalamu ou tous les collecteurs d'évacuation d'eau en immondices. Mais c'est aussi au vu des autorités de l'État. À une certaine époque, moi je me rappelle, il y avait un service d'hygiène qui fonctionnait régulièrement et qui mettait de l'ordre. Et les services d'urbanisme ne doivent pas seulement être un service pour peut-être donner les autorisations de bâtir, mais il faut, avant de donner ces autorisations, que les gens descendent effectivement sur terrain, qu'on vérifie là où les gens construisent. Et vous allez vous rendre compte que là on a mal construit, dans des sites à risque, ces gens-là ont des titres de propriété de l'État.
Merci J.R. Mokolo.
C'est l'incurie.
Des pratiques donc à dénoncer. On espère que les uns et les autres se sont sentis interpellés. Confusion, éclaircie et confusion de nouveau se sont alternées cette semaine au Nord Kivu. Mercredi, les responsables de la MONUSCO et ceux de l'armée de la RDC se réjouissaient encore de l'annonce de la reprise des opérations conjointes entre les deux parties, alors que sur le terrain au Nord Kivu, on mentionnait de nouvelles tueries, au moins deux parmi les personnes qui manifestaient à Butembo contre les tueries à Beni, et sur place à Beni, au moins 15 tués dans des nouvelles attaques attribuées aux ADF. Plus de détails rendus par Pele Kipela.
Selon des sources de la société civile locale, les assaillants auraient surpris chacun des paysans chez lui ou dans son champ. D'après la même source, 15 corps sans vie ont été levés du lieu de leur exécution. Parmi eux, l'on dénombre 9 hommes et 6 femmes. Les victimes ont été presque toutes décapitées à la machette. Les assaillants se seraient retirés de la zone avant l'arrivée des militaires FARDC. De son côté, la MONUSCO a dépêché une force d'intervention rapide afin de protéger les populations des Mamové, non loin des Maliki où les assaillants se seraient dirigés. Toutefois, plusieurs sources sécuritaires indiquent que le corps de ces personnes se trouve présentement à la morgue de l'hôpital général d'Oicha. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, CEPADO, ce nouveau massacre porte après des sangs le nombre des civils tués par les ADF en représailles aux offensives de grande envergure lancées contre eux depuis le 30 octobre dernier par les FARDC. Selon la société civile du territoire de Beni, 4 nouveaux corps auraient été découverts ce matin à Moussoukou, un village voisin de Maliki. Une information non encore confirmée par des sources sécuritaires. Depuis ce matin, la société civile et la coordination des jeunes du territoire de Beni sensibilisent les jeunes d'Oicha à appuyer les services de défense et de sécurité pour lutter contre les ADF. On apprend cependant qu'une centaine de jeunes porteurs d'armes blanches et qui seraient des Maïmaï sont entrés cet avant-midi à Oicha.
John Kanyunyu, on constate que cette semaine a été tristement mouvementée dans cette partie du pays, mais on a aussi constaté, par exemple, que les forces de sécurité, l'armée et la MONUSCO sont en train de mettre des stratégies en place pour pouvoir faire avancer les choses. Quel est votre commentaire de toute cette semaine à plusieurs visages?
Oui, merci beaucoup. Au lancement de ces opérations, le 30 octobre, moi-même, j'avais posé la question au porte-parole des FARDC, le général-major Jean-Léo Kasonga, ici à Beni, sur quel serait l'appui de la MONUSCO dans ces opérations. Et la réponse qui m'a été réservée, c'était que ce sont des opérations 100% congolaises. Donc, j'avais compris que la MONUSCO n'était pas associée dans ces opérations. Et aujourd'hui, malheureusement, comme la population ne connaît pas toutes ces réalités-là, elle s'attaque à la MONUSCO pendant qu'on est en train de tuer les gens, non le aussi de positions ou de campements de la MONUSCO. Et moi, je me dis, c'est normal que la population qui n'est pas peut-être informée s'apprenne à la MONUSCO. Mais moi, je me dis aussi, la MONUSCO est là pour mener des opérations selon le mandat de la force d'intervention, la FIB. La FIB peut attaquer sans l'autorisation des FARDC. Et là, la population ne comprend pas pourquoi ce n'est toujours pas fait. Et c'est d'une part. D'autre part, la MONUSCO qui est là, en appui au FARDC, et la MONUSCO qui est là pour la protection des civils, c'est pas quand même normal que les gens se soient en train d'être massacrés non loin de leur position. Et là, je me dis, il faut revoir les tirs. Et je me dis, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, les FARDC font recours à l'intervention de la MONUSCO, c'est bien, mais pourquoi n'avoir pas planifié cela avant le lancement des opérations le 30 octobre passé.
Alors, John Kanyunyu, est-ce que aujourd'hui encore nous faisons l'analyse qu'il faut? On focalise beaucoup sur la MONUSCO, hein, sans en prendre aucune défense. C'est pas dans mon rôle, mais j'ai toujours une analyse par rapport aux chiffres. Les ADF sont une dizaine, hein, quelques dizaines, disons, sont quelques dizaines aujourd'hui. C'est à peine s'ils peuvent dépasser la centaine. Les soldats des FARDC sont 100 000 et plus environ. La MONUSCO n'aurait tout autour que 20 000 hommes pour pouvoir constituer sa force. Pourquoi les Congolais ont toujours cette tendance à tout attribuer à la MONUSCO alors qu'ils doivent savoir que la MONUSCO a des moyens quand même assez limités? Entre 20 000 et 100 000 hommes de l'armée nationale, il n'y a quand même pas photo, non? Et tout ça contre quelques dizaines de groupes armés, les ADF. MEDEF et tout ça. Est-ce que on ne devrait pas plutôt se concentrer sur justement la capacité et les stratégies correctes à mettre en place, que ce soit la MONUSCO ou les RFADC seuls, ou que ce soit les deux ensemble comme pour le moment, pour pouvoir vaincre une bonne fois pour toutes ces quelques dizaines de personnes?
Oui, je me dis, si la population s'apprend aujourd'hui à la MONUSCO, c'est parce que il y a eu ces problèmes au lancement des opérations. Les FARDC ont dit que ce sont des opérations 100% congolaises. Et la population qui n'était pas là pendant le lancement ne pouvait pas comprendre comme quoi la MONUSCO n'était pas associée. Et si je ne veux pas expliquer, comme je ne suis pas le porte-parole des FARDC, je pense que le fait pour la population de s'apprendre à la MONUSCO, je pense, je le dis bien, je pense, c'est peut-être parce que les FARDC disent être à profondeur, disent être en train de s'occuper des ADF en profondeur, et selon la population, la MONUSCO devait jouer le rôle ou peut-être pouvait, ensemble avec la police, voir comment sécuriser les grandes agglomérations, parce qu'elle n'est pas associée dans des opérations proprement dites. Alors, pourquoi la population ne s'en prend pas au FARDC? Aujourd'hui, il y a un mariage scellé entre la population et les FARDC, parce que vous comprendrez avec moi que ce qui s'est passé ici par le passé, ou les années passées, il y avait vraiment un divorce consommé entre la population et les FARDC. Donc, la politisation de la situation de Beni, la politisation de la guerre ou des opérations contre les ADF n'avait pas permis au FARDC de bien jouer son rôle. Maintenant, aujourd'hui, qu'il y a ce mariage scellé, encore une fois, entre la population et les FARDC, voilà, à mon avis, pourquoi la population pensait que, pendant que les FARDC étaient en profondeur, que la MONUSCO pouvait, ensemble avec la police, voir comment protéger les grandes agglomérations, parce que il n'y a pas l'effectif qui manque pour la MONUSCO aussi, bien que les FARDC soient en grand nombre ici, il y a la brigade d'intervention qui est là et qui peut bien jouer ce rôle. Alors, je pense que c'est pour cela que la population s'en prend à la MONUSCO.
Merci.
Et comme maintenant, il y a des opérations conjointes à venir, espérons que cette fois-là,
merci,
il y aura plus de morts à compter dans cette contrée.
Merci John Kanyunyu, J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa, des tueries à répétition au Nord Kivu et surtout dans la région de Beni. Aujourd'hui, à qui la faute selon vous? On a tendance à se focaliser sur la MONUSCO, mais selon vous, est-ce que c'est cette analyse-là qu'il faut faire ou il faut voir les choses autrement?
À qui la faute? La faute incombe en premier lieu aux Congolais. Nous, il y a plusieurs années, particulièrement dans les années 97, nous avions cru bon, à travers l'AFDEL, de pouvoir recourir aux troupes des pays voisins pour chasser un président qui était ici. Et nous nous sommes emparés du pouvoir en faisant entrer les loups dans la bergerie. Et aujourd'hui, le Congo ressemble pratiquement à un homme atteint du sida, dont le système immunitaire est envahi par le virus du VIH, donc sans défense. Donc moi, je considère que nous ne pouvons pas continuer comme ça à trouver la MONUSCO comme un bouc émissaire. Mais si on devait, par exemple, suivre les recommandations de l'ancien régime de Joseph Kabila, je pense qu'il n'y aurait même plus la MONUSCO ici au Congo. Donc on se serait retrouvé seul face à ce qui nous empêche de dormir à l'est du pays. Donc il faut que nous-mêmes, nous puissions en tout cas prendre nos responsabilités. On ne peut pas responsabiliser une force qui est venue seulement en appui, en laissant de côté la force qui est en tout cas en premier responsable de pouvoir assurer la sécurité du territoire. Mais la difficulté que nous avons ici, Dona Madimba, c'est laquelle? Nous faisons face à un groupe terroriste, à une nébuleuse qui n'a ni tête ni queue. Vous ne connaissez pas l'état-major de l'ADF Naoulou, vous ne connaissez pas là où ils sont basés, vous ne connaissez pas leurs revendications, tout ça. Donc c'est même pas une guérilla, c'est une nébuleuse qui fait du terrorisme.
John Kanyunyu s'est interrogé tout à l'heure. Il y a quelque temps encore, on disait que ces groupes armés s'infiltraient dans des coins sombres et difficiles à repérer. Mais maintenant, ils attaquent même en pleine grande ville. Comment expliquez-vous ça?
Oui, ça démontre que, comme je l'ai dit, notre système de défense, en tout cas, est déficient et pose problème. Donc je disais, c'est une nébuleuse. Ça dit des gens qui peuvent comme ça, la nuit, aller des machettes, silencieusement, sans prendre aux civils, pour que ça puisse créer en tout cas une révolte auprès de la population contre les autorités en place. Dernière chose, je suis étonné que tout ça se passe dans l'indifférence totale des Congolais. C'est comme si les Congolais ont perdu leur capacité d'indignation. Je me rappelle sous l'M plus 4, nous avions des attaques de Bukavu avec Mutebusi et tout ça. On a vu commerce dans la capitale ici, les gens ont réagi. Mais on tue nos frères à l'est du pays, rien ne s'est fait.
Merci,
on s'arrête seulement à trouver comme bouc émissaire la MONUSCO et ça s'arrête là.
Merci J.R. Mokolo. Freddy Chiyoyo, est-ce que la situation, comme semble le commenter tout à l'heure J.R. Mokolo, est totalement désespérée que ça? Y a-t-il moyen de mettre fin à ces tueries à répétition qui continuent d'endeuiller la RDC?
En fait, le testament de Mokolo est vos pesant d'or. D'où viennent les ADF Nalo? Ils viennent d'où? Pourquoi est-ce qu'ils ne tuent pas les Ougandais, ils ne tuent pas les Rwandais? Alors, aujourd'hui, le président Tshisekedi, à Bukavu, l'a dit, s'il faut rendre ma vie, s'il faut rendre l'âme, je les rendrai. Je mourrai pour que la paix soit restaurée dans l'espace de l'Est de la RDC. On double les munitions, on double les unités, on double le commandement. De 11 000 à plus ou moins 20 000 hommes qu'on envoie avec l'accompagnement des élus du peuple. Les Bourrin, le Sengue, tous ces députés de l'Est, les ont accompagnés. Avec l'argent, avec des moyens, des ressources financières nécessaires pour que on puisse mettre cette histoire-là, qu'on puisse fêter en paix à Béni. Et le chef leur a dit, je reviendrai ici que lorsqu'il y a la paix ici. Il veut rentrer ici, on abat l'avion avec le son chauffeur. L'enquête, on a dit mot. Alors, je suis sidéré de lire le tweet d'un politique congolais qui se déclare Kanza élu, dire que tant qu'il y aura la chaîne de commandement de Kabila, il n'y aura jamais de paix à Béni. Alors que les innocents meurent. Donc quelqu'un s'évertue à tweeter comme quoi, tant que les vassaux de Kabila sont encore dans leur chaîne de commandement, il n'y aura jamais de paix à Béni. Les innocents qui meurent, et quelqu'un qui se croit être président de la République dit que non, il y aura toujours des morts. Donc comme si il se réjouissait, ces morts à répétition continuent à se perpétrer.
Ces déclarations ne sont-elles pas tout simplement une mythologie?
Non.
L'ancien président Kabila, principe, il n'est plus président.
Justement.
Selon le bon sens, il ne peut pas avoir une influence jusqu'à ce point.
Mais justement, le sens républicain devrait nous animer tous. Même quoi qu'on soit adversaire idéologiquement, politiquement, mais par rapport aux morts que nous dénombrons, le bon sens ne voudrait pas qu'on puisse dire à haute voix, tant que le commandement de Kabila, alors Kabila est parti. Kabila, c'est une mère comme vous et moi, mon cher ami. Deux mois après, demain, peut mourir. Kamango, je t'ai vu que l'avant-hier, il est mort ce matin, personnellement. Kabila est en paix chez lui à Kingakati.
Est-ce que le moment n'est pas venu plutôt de se focaliser sur l'actuel président?
Alors,
est-ce que le moment n'est pas venu de s'interroger sur sa capacité
à
mettre un terme à ces tueries?
C'est là où j'ai tenté de réfléchir. Nous devons faire appel à un lien de solidarité. Vous comprenez comme a dit M. Mokolo, en 2001 ou en 2002, on a vu les étudiants se mobiliser dans la ville avec sous l'époque du général Kimbunda ou Iliwanga. Vous vous rappelez, on a vu les étudiants de l'ISTA, de l'UPEN, de l'IBTP, de l'UQIL se mobiliser. Tant c'est trop. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les culottes sont devenues à faune, personne n'en parle, on s'est content de tweeter, de dire qu'on est bon, à béni. Non, je pense qu'aujourd'hui, nous devons appuyer. Mais pourquoi est-ce que la population aide ses postes à la MONUSCO? C'est parce que le commandement de FRDC annonce des prouesses qu'en grange le FRDC. Mais malheureusement, pendant que le FRDC repousse, la MONUSCO vous croise les bras. La MONUSCO ne vient pas au secours, ne vient pas au chevet des populations qu'on tue par les gens qu'on soupçonnerait d'être proches des ADF Nalo. Pourquoi est-ce que la MONUSCO, c'est vrai, elle n'est pas là pour défendre les communs, au moins pour protéger les civils. Comme dans sa mission.
Ces interrogations peuvent être valables, mais rappelons aussi qu'il n'y avait pas collaboration.
Non, on vient mais de dire qu'il n'y avait pas collaboration. Devant la mort, on doit se taire, mon cher ami. Puis c'est pas collaboration. On tue le Congolais, les civils. Parce qu'on collabore, on peut pas vous défendre. C'est là que je me dis quelque part, il y a un père, une sorte de complicité voilée qui ne dit mot. Puis pourquoi est-ce qu'il y a eu soulever la population? C'est parce que on a senti une MONUSCO qui s'est montrée un peu complice, vous savez, des assaillants ou de rebelles ou des agresseurs.
C'est une analyse, mais bon, les stratégies, les stratégies militaires sont très compliquées à définir. Mais votre position est respectable et a été respectée ce soir. Alain Ngoy, Alain Irung et Kéline Kouté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.